les rencontres politiques en Ariège. C'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
A livello istituzionale, non governo, ma Regione Lazio, una dove sei anche Roma,
dalla Regione de Roma,
con grande risalto è stata inaugurata una fiction televisiva sulla figura di Mussolini. E i rappresentanti della Regione Lazio, di Fratelli d'Italia, del partito, si sono presentati l'anno scorso alla prima visione di questa fiction, quindi cerimonia ufficiale, in costume dell'epoca, vestiti da militanti della vecchia Repubblica di Salò di Mussolini.
L'année passée, par exemple, dans la région de Rome, ils ont sorti une fiction à la télé sur Mussolini, Benito Mussolini, en biographie, et quand c'était présenté à la première, sont allés les représentants du parti Fratelli d'Italia, que c'est le parti de Giorgia Meloni, habillés comme à l'époque de Mussolini, pour voir la première de la fiction. Donc, dans les locales, oui, c'est bien explicite et c'est fait exprès pour montrer nous, on est là, si vous voulez voter pour nous. Niveau institutionnel, non. C'est jamais dit que sont des fachos. Ils disent non. C'est rien. On n'a rien à faire avec l'idéologie fasciste.
Et à livello, secondo me, questo era solo un esempio, però a livello istituzionale locale basso è abbastanza evidente che quando avvengono queste cose a livello di società non c'è un interesse, una risposta, quindi di quella fascistizzazione della società che è proseguita normalmente in maniera ininterrotta.
Et c'est même dans cette petite, ça c'est un exemple, mais même dans ces petites situations, ça manque toujours à réponse. Pourquoi, au lieu d'avoir les 20 représentants qui sont allés habiller les APAU en délégation d'anarchistes, des camarades qui sont allés pour bloquer la fiction, il y a un manque par rapport à ça. Et donc, dans les petits villages, dans les campagnes, ça prend forme l'idéologie fasciste.
Tout à l'heure, tu disais notamment que ce qui a manqué dans les dernières années, c'est notre capacité de lutte pied à pied contre cette tendance à la montée du fascisme, je ne sais pas quoi. Et en même temps, tu dis, c'est un truc qui avance masqué, là, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Et en plus, ça ne se produit pas comme une rupture franche avec la démocratie libérale et l'ordre capitaliste habituel. Ça, je pense qu'on a bien compris. Il y a une continuité. Et du coup, je pense que c'est pas tellement des amertumes qu'il faut avoir, c'est plutôt comment on réagit maintenant, comment on continue à utiliser des mots comme le mot fascisme, qui est en fait assez ambigu, moi je trouve. Là, c'est plus clair quand ils vont à l'avant-première habillés comme des fascistes. Mais la plupart du temps, comme vous le dites très bien, c'est des technocrates, des bureaucrates plus ou moins habituels, très réactionnaires, ni plus ni moins. Moi j'arrive de Suède, il y a aussi des fascistes au pouvoir depuis un an, et j'ai rencontré des camarades pour leur poser à peu près la même question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et comment ça se traduit dans la vie quotidienne, dans les luttes, etc. Et bien de la même manière, ils font le constat équivalent, que pas grand-chose a changé, mais les choses se sont aggravées ou intensifiées, comme vous l'avez dit. Par exemple, maintenant, la Suède fait partie de l'OTAN, où c'est beaucoup plus chiant d'avorter. Enfin, c'est que des trucs que tout à fait de la même manière, mais personne ne dit qu'ils sont fascistes, etc. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de lutte, parce que c'est beaucoup plus difficile de dresser, je sais pas moi, les mains de gens contre un ennemi, contre quelque chose qui est en fait dans la continuité de l'ordre capitaliste. Et
Donc, la
j'ai
question.
Une question, mais vas-y.
Voilà, vas-y, vas-y, qu'après je fais tout ensemble.
Ma question, en gros, c'est parce que en Suède, la seule chose que je constate qui ne correspondait pas à ce que j'imaginais de ce qu'on voit nous ici de la montée du fascisme, c'est que depuis que le parti, tu vois, les démocrates de Suède est au pouvoir, enfin proche du pouvoir, là, participe au pouvoir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les groupuscules fascistes de base, les nazis de rue, sont moins, d'après ce que les camarades disent, sont moins forts. Comme si l'État faisait le travail de répression et que les groupuscules fascistes sont moins forts, seraient moins forts. Et moi, par exemple, j'ai l'impression qu'ici en France, c'est le contraire qui se passe. Plus les partis des standards sont forts, plus les groupuscules sont forts aussi et se permettent de faire ça. Est-ce qu'en Italie, la question c'est ça, depuis qu'il y a la Meloni, ces groupuscules, ils sont plus forts, il y a plus de pogroms, enfin ratonnades, émeutes d'extrême droite, attaques dans les rues, etc. Voilà.
Praticamente dice che vabbè, i fascisti
sono un po' nascosti,
ha portato l'esempio della Svezia, che mentre c'è un governo che fa il lavoro ci sono poi dei gruppuscoli, lui chiede piccoli gruppi fascisti anche in Italia, si hanno preso molto potere.
Ah, pas pour moi, il y a ce truc de février là qui s'est passé où il y avait des salines nazis sur la voie du Rhin. Du coup, c'était une rencontre de l'extrême droite européenne aussi. Enfin, il n'y avait pas que des patriotes d'Italie, il y avait des Allemands, il y avait des Français. Tous les nationalistes révolutionnaires, en fait, enfin, c'est un peu le pays qui dit. Et en vrai, le fait que ça passe, que personne ne dit rien, moi, je trouve que c'est déjà un truc hyper clair de. Enfin, pour moi, il y a des politiciens qui sont allés à un niveau étatique, et puis après, il y a tous les radicaux, il y a des allers-retours comme ça. Et généralement, moi, j'ai l'impression que ce qui se passe, comme en France d'ailleurs, c'est que quand il y a des attaques de gros fascistes, de nationalistes révolutionnaires, en fait, les fachos qui ont les politiciens, en fait, ils disent juste rien, mais ça leur laisse de la place, quoi. Enfin, et pour moi, c'est un peu des allers-retours comme ça qui se passent entre les plus radicaux et les fascistes. Mais ça devrait.
En Italie, per esempio, se penso a Casa Pound o Forza Nuova, così hanno semplicemente cambiato strategia. Sono più forti, non nel senso della negli ultimi anni con la Meloni, non nel senso della presenza reale in strada, ma sono più forti perché uno hanno contatti diretti, sono anche nei piccoli centri di potere locali tramite Fratelli d'Italia, così, quindi hanno anche un peso a livello della politica reale sul territorio più forte. E il cambio della strategia degli ultimi anni in alcuni avvenimenti che sono accaduti in Sicilia, così, è stato non solo ad esempio contro migranti e così, ma sono intervenuti quieti e intervenuti direttamente per rompere due picchetti degli scioperi dei lavoratori al posto che la polizia, ne ha rotti loro, sono entrati loro, e nel nord per rompere gli picchetti di movimenti per la casa contro gli sfratti al posto della polizia. Questo è un cambio di strategia, che poi è il ruolo, insomma, penso anche al ventennio in Italia, per il quale le formazioni di picchiatori fascisti o anche negli anni 60-70 hanno agito. Però adesso hanno fatto questo sorta di salto di qualità. Hanno fatto questo passaggio.
Oui, le petite groupuscule, sont devenus plus forts, mais vraiment ils ont changé de stratégie. Et c'est dû en premier parce qu'ils ont un contact direct maintenant avec le pouvoir. Avant c'était des petits groupes qui faisaient ce qu'ils voulaient faire, mais maintenant ils ont des contacts directs avec le pouvoir parce que dans les villages sont des Fratelli d'Italia. E allora qu'est-ce che arriva? Il ha fatto l'esempio che contro le émigrés en Sicile, pour lever des grèves, des gens qui faisaient la grève. Ils ont même pas allé les gendarmes, mais sont allés ces petits groupes d'extrême droite qui les ont poussés en pleine légalité. Donc il y a eu un groupe contre un autre groupe, mais un groupe appuyé par l'extrême droite qui l'a pu chasser les gens qui faisaient la grève. Donc sì, sono beaucoup plus fort perché maintenant sono bien protégé. Ils ont changé de stratégie, donc maintenant ils font vraiment les gendarmes. Ouais.
Questo era Casa Pound, per esempio.
Casa Pound, c'est un squat d'extrême droite. E c'è les gens de Casa Pound che notamment font les gendarmes dans les petits villages. Hein. Non più le gendarmi, resta alla gendarmerie. Parce qu'il y a les gens qui font
le vrai fascisme, c'est ça.
À Lorient, l'été dernier, suite à la mort de Naël, il y a des milices d'extrême droite qui sont venus taper les émeutiers et émeutières pendant la manif pour aider les flics.
En Italie, on pratique que c'était quand je faisais encore les manifestations. La stratégie, c'était ça. On faisait la manifestation, gendarmes et groupuscules, petits groupes d'extrême droite, ils étaient d'accord. Les gendarmes restaient de côté avec le portable, la caméra ici, tout ça. Ils faisaient rapprocher les groupes d'extrême droite. Quand on était proche, ça arrivait quelque chose. Tranquille, manifestation, tout le monde à la maison. Après 3-4 semaines, vidéo. Tac, tu viens, tous les manifestants, jamais des gens de Crepuscule qui ont provoqué la bagarre et tout ça. Donc, ouais.
Moi, j'avais une toute petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit Casa Pound, c'est un squat d'extrême droite.
Un mouvement d'extrême droite. È un movimento politico, partito politico e anche degli squat, per esempio, soprattutto a Roma, nei quartieri popolari di Roma.
Oh, sono come uno, i tuoi, le faccio, sono pa' le antenne, donc ils ouvrent les maisons, ils rentrent, ils squat, okay, ils peuvent le faire.
Ils ont fait beaucoup de social, ils ont eu un succès à Rome parce qu'ils ont fait beaucoup de social.
Maintenant, Casa Pound, c'est presque
parti. La question, c'est que moi, dans mon imaginaire, le mouvement squat, c'est un mouvement qui lutte contre la spéculation immobilière, qui ouvre des bâtiments pour des personnes qui n'ont pas accès et tout, et du coup, est-ce que c'est... Ces thématiques-là sont appropriées par l'extrême droite.
Je peux répondre. La question, c'est délicat parce que les fascismes italiens qui l'a créé Mussolini, qui notamment c'était socialiste, et c'était le directeur du journal le plus socialiste qu'il y avait à l'Italie, qui s'appelait Avanti, il avait une politique beaucoup pour les classes bas. C'est Mussolini qui l'a créé la retraite pour les anciens. C'est Mussolini qui l'a fait plein de choses pour les classes les plus pauvres, plutôt des beaux. Hein? Après, il les a bien exploités, après, il a tout fait. Donc, il y a, même Hitler, si tu veux, c'était un national-socialisme. Donc, et ça amplifie malheureusement la confusion. C'est vrai, parce qu'il y a des gens de la... delle classi le più povere all'Italia che sono ambiti che la Meloni va a pouvoir parce qu'il prova vraiment qu'elle fait des choses pour les plus pauvres malgré 30 ans d'exemple qui vont dans le sens contraire à tout ça. Ouais.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Il y a un groupe de FAF français qui avait aussi ouvert un squat à Lyon, Bastion Social. Ça, je sais pas combien de temps ça a tenu, mais en tout cas c'était un peu une tentative de faire pareil qu'en Italie, quoi. Il y a 10 ans, donc peut-être un peu plus.
Une pâle copie.
Hein?
Une pâle copie.
Ouais.
Par rapport à Casa. Parce que Casapong trouve vraiment énormément de social dans
Casapong, il est presque un parti populaire
pour les Italiens, hein, de souche. Hein. Mmh. Mais vraiment un travail social, pas comme en France, où ils font un petit stand de saucisses.
Ils font les courses pour les pauvres, dehors des intermarchés. Mais pardon, Tommy, même Rassemblement National, quand il parle, il fait une politique pour les classes les plus basses. Mmh. Hein? C'est un peu la stratégie de ces bâtards.
Ho letto che la prima dichiarazione di propaganda del Raggruppamento Nazionale, è stata la dichiarazione di dire: ah, aboliamo la nuova legge sulle pensioni, sui decreti. A livello di propaganda.
E lui la dice.
È la stessa cosa, cioè a livello di.
Lui le dit la première chose que j'ai lu che l'ha fait Rassemblement National, l'ha déclaré de dire: no, la loi sulle retraite on la fait pas, on est pour les retraités. Donc c'est un peu la même chose che all'Italia, mais c'est ça che il augmente la confusion. L'ignorance, tout ça, ça on le sait bien, non? Donc, oui, mais c'est...
Ça paraît simple, le squat pour les fascistes a été déjà en Espagne il y a 10 ans, je pense, au Real Social Madrid. Et les gens étaient un peu ça faire la publicité, et non, on est les Espagnols, on les donne en chambre, on les donne pour manger, et ça a été, je pense, 10 ans avant aussi.
En Belgique aussi, ils avaient essayé de faire ça, ils trouvaient de la bouffe dans la rue, en disant on va donner de la bouffe aux SDF qui sont blancs, par contre on va pas faire ça.
Et normalement, c'est pour donner le vote. Mm.
Continue populaire que pour les Grecs en Grèce. Ouais,
carrément.
Ça a été une façon aussi très forte de s'implanter dans la culture.
Ouais. Et du coup, c'est vrai, je trouve là quand on en parle, comme si c'était du social. Enfin, c'est du social qui se met en acte, mais en fait, c'est du racisme qui se met en acte. C'est ça que ça raconte aussi, c'est que le caractère racial de ce qui se passe, en fait, il est hyper assumé. Revendiquer quoi.
Mais là, quand il parlait là, de cette propagande fasciste à travers les médias, même en France, il y a des exemples, on a des exemples. Mais moi, là, je vois avec les moyens que moi et mes amis on a, mais je ne vois pas comment on va pouvoir contrebalancer un autre discours. Je veux dire, avec nos pauvres fêtes de soutien. Hein. C'est sidérant, quoi. Le rapport, là...
Pour moi, c'est très important, quand il a dit... L'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans les dernières 20 ans, ça manquait en réponse, pendant que les petits groupes, ils étaient en train de naître, ils étaient en train de pousser en politique, de changer les valeurs, de faire leur propagande, c'était où l'opposition. Moi, j'ai noté... Que depuis le Covid, l'Europe, mais moi je vis en France, donc même en France, l'impossibilité de se rassembler, de faire des manifestations, de faire des choses comme ça, c'est exactement la même stratégie. Il n'y a pas de réponse. Rassemblement National, il fait sa propagande, telle qu'il est arrivé à gagner au premier tour des élections. Et derrière, oui, on fait les. BNF et tout ça, mais donc la politique française, à mon avis, elle est en train de faire la même chose, empêcher avec n'importe quelle excuse une réponse à cette petite propagande qu'elle est en train de s'affirmer ici.
C'est pas une petite propagande.
Per me, su questo, per esempio, in Italia. Su quello che stavi dicendo, è stata proprio quello che dicevo prima, la nostra mancanza più a livello locale, paese, città, quartiere, nelle lotte, nelle situazioni dei posti di lavoro, nei vari comitati popolari che si creavano, a controbilanciare e creare un discorso reale contro una propaganda che stava diventando sempre più forte e più invasiva. Io penso ancora anche adesso, in alcuni pochi posti in Italia, come ad esempio la Valsusa vicino a Torino, non passano i discorsi della Meloni, ma perché si è creato non solamente con la lotta che c'è stata, ma anche a livello di vita quotidiana, in un'intera valle che non è piccola, è una delle valli più grosse d'Italia, un certo tipo di sentimento diverso, a livello proprio dal basso, ma con la presenza costante in 10 anni, ma come c'era in Italia una volta, come c'era in tutti i posti. E questo ha controbilanciato una propaganda ufficiale tramite i mass media o i mezzi di comunicazione.
C'est très important, à son avis, d'être présent le plus possible dans localement. Donc être un peu partout et d'être présent toujours, parce que il a fait l'exemple de la Valsusa pour la ligne haute vitesse à côté de Touraine. Là, c'est sûr, les valeurs de la propagande sont pas arrivées. Mais c'est parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là-bas, qu'il y a une lutte permanente. En fait, en Valsusa, ils ont fait des chantiers, il y a un village maintenant. Et c'est une des vallées plus grandes d'Italie. Donc, c'est possible, mais c'était possible parce que là, l'extrême droite, il est pas. Hein. C'est possible parce qu'il y a la constance d'être toujours là, d'avoir amené toujours des choses, de répondre chaque fois à chaque provocation. Ça serait important de le faire dans chaque village. C'est ça que ça manquait, qui l'a permis. Parce que pendant que les autres, la gauche, elle était engagée à survivre, parce qu'après c'est ça, les autres ils ont bien eu la place pour faire leur propagande. Mais là où la gauche, comme la Valsusa, ça c'est pas arrivé.
Se posso, mi permetto di ricordare una cosa. Personalmente, a livello individuale, mi fa strano quello che è successo in Italia rispetto, ho iniziato a fare militanza negli anni 90, perché comunque l'Italia, la situazione in Italia era cosiddetta in Europa l'anomalia italiana per la presenza di lotte sociali, movimenti di qualsiasi genere, di estrema sinistra. Era una situazione, io non mi sono accorto come piano piano siamo arrivati a questo punto. È stato poco a poco, un passaggio dopo l'altro. E poi finisco.
Allora, il parlo di lui, même, donc personalmente, dans la lutte depuis les années 90, lui, il dit qu'il ne se rend pas compte de comment ce mouvement il a pu devenir comme ça, comme aujourd'hui. Parce que franchement, pendant que... C'est une anomalie, en fait. Lui, il dit, je n'ai pas vu les fascistes arriver comme ça et je suis dans le milieu de la lutte depuis 30 ans.
C'era su questo più, e una situazione dagli anni 60, dal 68 in poi, di conflittualità e di presenza nei quartieri delle città che era molto forte, radicata. E mi ricordo sì, l'anomalia italiana in quel senso lì, come venivano chiamati. E in questo senso mi ricordo subito dopo il crollo del primo governo Berlusconi in Italia nel 94, una dichiarazione di Giovanni Agnelli, il vecchio padrone della Fiat, il capo dell'Italia nella realtà, che che aveva dichiarato: vista la situazione di lotte sociali in Italia, solo un governo istituzionale di sinistra può fare una politica di destra in Italia, perché gli altri non lo potrebbero fare, vista la conflittualità. Adesso siamo al contrario. Questa cosa qua è avvenuta, si sono create le basi per... e siamo arrivati a questo.
Se il arrive a comprendre, franchement, moi aussi, parce que c'est vrai, la gauche elle était beaucoup présente dans les villages, dans les places de ville et tout ça. Donc, vraiment, c'était appelé en Europe l'anomalie italienne à cause de ça, parce qu'il y avait un retour du fascisme, mais après, dans les villes, la quotidianité, c'était qu'il y avait la gauche, dans les rues, dans les places. Parce que les autres, ils avaient la télé, à mon avis. Personnellement, moi
je n'ai pas fini de traduire tout.
Il avait dit en fait que Gianni Agnelli, le patron de la Fiat, il avait déclaré en cette époque-là par rapport à cette anomalie qu'il aurait dû avoir un gouvernement de gauche pour faire un vrai politique de droite à l'Italie, parce que c'était la gauche qui avait plus de prise sur la population. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris un parti de gauche. Ils ont fait de la politique.
Ce que je veux permettre, c'est qu'ils disaient que ce n'est pas tant qu'il y avait la gauche, c'est la conflictualité dans le pays, c'est qu'il y avait des luttes partout. C'est ça,
il y avait des luttes.
C'était quand même en Italie, il y a eu les luttes, les grèves les plus importantes et un conflit très important, c'est ça que tu disais. Et à ce moment-là, Agnelli a fait cette déclaration. Enfin, c'est de la gauche, c'est pas une gauche institutionnelle, c'était de l'élite. C'était différent pour... Enfin, voilà.
Si, c'est vrai, c'était plus sur la route.
Un système qui était bloqué par l'élite, si. Et donc la solution, c'était de faire une politique, c'est-à-dire une élite. Si. Voilà, que des gauches institutionnelles fassent une politique de droite, pour que ça passe. Et ce que tu as dit, moi j'ai compris, c'est que c'est ça que tu dis, on n'a pas vu la fascisation se mettre en place, c'est-à-dire une gauche qui bêtait petit à petit, et c'est ce qu'on peut vivre aussi, petit à petit, des choses de plus en plus autoritaires, et tout ce processus, c'est ça que tu dis, on ne l'a pas vu venir, on ne l'a pas su lutter au départ, même quand c'était la gauche
on qui passait. On ne s'est pas aperçu que le fascisme, il était en train de revenir.
Il semble que cela...
On doit venir, mais on ne s'est pas l'empêcher, bon, on n'arrive pas à l'empêcher.
Negli, per esempio, in piccolo, negli più o meno dieci anni fa, sempre in Valsusa, il partito politico Movimento 5 Stelle, che non si è mai capito chi era, però Movimento 5 Stelle a livello locale aveva detto no, non con le manifestazioni così, appoggiateci nelle liste elettorali locali contro il TAV. Dopo un anno erano al potere con la Lega, che è la Lega Nord, un altro partito fascista, Salvini e così via, a fare le leggi per appoggiare il TAV, contrario, e anche a livello locale, in alcuni casi, i sindaci hanno firmato l'accordo con le ferrovie italiane per compensazione per la TAV, per il sì alla TAV. E questo però ha creato un sacco di confusione nelle persone, ha depotenziato e distrutto tanto. Questo è solo lo stesso esempio a livello piccolo e locale di quello che è avvenuto recentemente.
On peut faire l'exemple della Valsusa, il y a eu le mouvement 5 étoiles, che tutto debout se présentait come un gouvernement de gauche. Ils étaient présents dans la lutte contre la TAV. Et à un moment donné, ils ont parlé à tous les grévistes, ils ont dit, si vous nous votez aux élections, on va vous donner notre soutien. Chose qui s'était faite, mais que une année après, grâce à l'accord avec l'Alliance du Nord, la Lega Nord, que c'est le parti fasciste de Salvini, Matteo Salvini, elle a changé d'avis, elle a pris des mesures contre la. À favor, pour la TAV. Donc c'est une confusion maintenant, ce qui représente la population, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de confusion, même dans les petites luttes qu'on fait encore dans la rue. Et ça, c'est l'exemple de la table.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Après, en Italie, il y a quand même une grosse différence entre ce que tu dis, là, les mouvements sociaux des années 70, qui étaient vraiment très, très, très conflictuels et très puissants. Mais après ça, il y a eu une vague
c'est rien à voir avec la France. C'est vrai qu'il y a eu un gros conflit, mais...
C'est flagrant, hein. En Italie... les années 80-90, hein, il n'y a plus de mouvement social ouvrier, de grève, à part la petite image de Gênes, ou Livourno, ou... mais c'est vraiment rien. C'est incomparable avec ce qui se passe dans ce pays, en France, quoi, où il y a quand même encore de la conflictualité ouvrière, des grèves régulièrement, à tout niveau, des grosses boîtes comme des toutes petites boîtes. Et ça, c'est quand même... Parce que moi, après, j'ai fréquenté l'Italie dans les années fin 80, là, début 90, et je voyais cette. Il y avait vraiment une pacification, et je voyais cette classe ouvrière italienne qui voulait ressembler aux bourgeois. C'était vraiment, pour moi qui étais français, c'était vraiment choquant. Vraiment choquant. Et c'était pourtant, j'ai fréquenté Turin et. Quand même, nous on apprend que ça y est, on n'a pas eu les 30 ans de Berlusconi à la télé qui a bien pourri la tête des Italiens et des Italiennes. Hein. Et là, c'est en train d'arriver et vraiment contre ce truc-là, à part faire
ce truc. Mais en fait, c'est ça, les conflits, c'était jusqu'à 76. Après, c'est un peu. À partir des années 80, le pays, à mon avis, l'a dormi un peu la lutte. Après, oui, on faisait de la politique dans les villages. Moi, c'était sorti sur les journaux parce que j'étais le plus jeune conseiller communal d'Italie. C'était pour le Parti Communiste, j'avais 18 ans, j'avais pas encore tout compris, pardon. Et j'avais 18 ans, c'était donc 80, bon, je me rappelle pas, mais je suis 76, 90, comme ça. Après deux mois, j'avais compris que tout ce qu'on avait parlé avant d'arriver à prendre la siège au conseil communal, c'était rien. C'était pour arriver à avoir la siège. Dès qu'on est rentré, que j'étais conseiller communal, il me disait, oui, mais ça, on le verra après. Oui, ma nonna, on s'occupe de ça, la lutte pour avoir ça, on la verra après. Oui, la lutte pour un place pour les jeunes, ça, on va la voir après. C'était déjà comme ça. Ça durait 4 mois et je suis parti. Le plus jeune conseiller du village. Mais c'est parce qu'une fois qu'on arrive là, on n'est pas... nous les patrons de notre décision. Il y a des compromis et c'est comme ça. Tom. La démocratie.
La démocratie. Non, mais un truc qui me questionne aussi dans l'antifascisme de manière générale, c'est comment est-ce qu'on arrive à dérouler des perspectives un peu révolutionnaires, en fait, parce que juste lutter contre le fascisme, enfin, pour moi ça n'a pas de sens. Mais comment on dépasse ce truc là c'est une vraie question, et je pense que c'est aussi un des trucs qui fait que peut-être les anti-autoritaires n'ont pas vu venir la montée du fascisme, c'est qu'en fait c'est pas un endroit où on regarde trop, parce qu'on regarde ailleurs en même temps, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas moi l'énergie que j'ai mis jusqu'à maintenant, en tout cas ces dernières années, c'était pas sur des trucs anti-fascistes. Avant ça, j'avais fait ça et je me disais, en fait, c'est hyper limité, lutter contre le fascisme, c'est pas forcément lutter contre, je sais pas, le capitalisme, l'autorité, l'État. Enfin, il n'y a pas une volonté de destruction de l'État et du capitalisme qui est claire, je trouve. Et du coup, Ça fait qu'après on se met à chercher d'autres endroits à lutter pour avoir un déroulé qui nous parle plus. Mais du coup ça fait qu'on met de côté la lutte entre fascistes. Quoi. Si tu perds comme ça. Non, toujours pas.
Ok. Je sais pas si on est la lutte antifasciste. Moi, je verrais plus la rupture avec le social. Avec. Les groupes radicaux, l'entre-soi et pas aller voilà. Moi je pense que c'est un des problèmes, hein, je pense.
La France par rapport à l'Italie, ça c'est mon avis, elle est beaucoup différente. Moi je me rappelle la période, l'exemple des gilets jaunes. Avant que tout s'était arrêté par le Covid et tout ça, c'était le mouvement plus grand qu'il y avait en Europe. Ici, il y avait des grèves chaque jour, chaque semaine, chaque samedi. Vous êtes arrivés à quand même à battre la porte de l'Élysée avec des manifestations. Ça, c'est des choses qu'à l'Italie, on ne s'imagine même pas. L'Italie... que tu respires même pas, tu arrives à faire un petit A sur un mur après tout, parce que t'es pris tout de suite, il y a des caméras partout, ici en France la population elle est vraiment différente, moi j'ai vécu des choses, chapeau, et c'est ça qu'il faut vraiment remettre en place. Avant le Covid, quand il y avait la grève pour l'augmentation du gasoil, du prix du gasoil, une chose très populaire, que chaque personne, chaque Français, il a pu toucher, parce que chaque Français fait l'essence dans sa voiture, il y a eu les plus grandes manifestations d'Europe. Ici, ça faisait 20 jours de grève, qu'en Allemagne, c'était une journée, à l'Italie aussi, ils avaient fait une journée de grève, mais bon, après tout le travail, à mon avis, s'il y a quelque chose qui vraiment peut rendre difficile l'implantation d'un gouvernement d'extrême droite, c'est vraiment la population. Ici, j'ai le point de vue de l'Ariège, que c'est spécial aussi. Je pense qu'ailleurs en France, c'est un peu différent. Mais quand même, j'entendais les nouvelles et il y avait... C'était parpillé quand même, cette vague d'opposition. Moi, je pousse vers ça, à faire encore ça. Après, mon analyse personnelle. À l'Italie, c'était un grand frein pour l'évolution des choses, le fait qu'on n'arrivait pas à s'organiser. On voyait tout de suite les différences entre les petits groupes, les petites différences d'idéologie qu'on aurait dû voir avant, ce qu'il nous rendait, ce qu'il aurait pu nous mettre ensemble. Et après, analyser les différences. Moi, je disais toujours, mais non, on se met tout ensemble, anarchistes, communistes, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils détestent, les pouvoirs, on se met ensemble, on détruit les pouvoirs. Après, on discute entre nous, comment faire pour avoir chacun sa partie. Ça c'était moi, parce que j'ai toujours eu ce côté un peu trop sérieux. Et à mon avis, il faut faire la même chose. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement très mélangé. Il y avait un peu de tout dedans, mais c'était efficace. Moi, je trouve que l'Italie... Moi, j'étais une des premières à dire lui, il est communiste, il est... Et on ne voulait pas. À mon avis, ça, c'était un gros erreur. Il faut d'abord se mettre ensemble pour gagner. Et une fois gagné, on peut voir les différences. Je fais la traduction pour lui. Detto che in Italia un grosso freno era che ci guardavamo sempre prima le differenze tra i diversi gruppi che si trovavano nella lotta. E non quello che ci rende uniti, non ci faccio, che invece poi in Francia i piedi gialli, che erano un movimento molto, però sono riusciti a fare qualcosa.
quindi ho detto che a mio avviso è molto meglio meglio se all'inizio non si guarda la differenza come si discute insieme si guarda qualcosa poi si discute tra di noi piuttosto che rimanere qui questo è quello che ho fatto perché la democrazia rende possibile la vita. La continuità è la base di quello che ti serve a me.
Ma
question quand même, je ne fais pas trop l'illusion, mais...
Tu peux parler plus fort, s'il te plaît.
Okay. Attends, je vais fermer. Je me fais pas trop d'illusions, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu comme réaction suite à la diffusion du documentaire des journalistes qui sont infiltrés dans le parti de la jeunesse de Giorgia Meloni il y a quelques mois.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, ça veut dire que
c'est les journalistes qui sont ou quoi.
Je sais pas si quelqu'un connaît le média qui a fait ça, mais...
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Il y a une journaliste d'un média indépendant qui s'est infiltrée dans le parti de la jeunesse de Giorgia Meloni pendant un certain nombre de semaines. Et qui du coup a réussi à prendre des vidéos assez inédites de bah, justement de salut Romain et tout comme ça au sein de ce parti là. Et du coup il y a une
J'ai fait la traduction. Un documentaire fatto da alcuni giornalisti che si erano infiltrati nel partito dei giovani, ma deve essere una roba di ieri.
E cosa hanno fatto? Cioè, cosa puoi iniziare un documentario? Cioè, sono...
allora, perché io la vita ci sono stati ieri e poi chiede se ci sono state le reazioni, ma come conosci le più cose? Neanche io.
Non conosco l'episodio, ma per dirti anche semplicemente la... solo l'esempio che avevo fatto, quello della premiere, della fiction, così non ci sono reazioni in Italia, anche perché ad esempio anche a livello più alto, quello lo so, il movimento giovanile del Partito di Fratelli d'Italia, anche come programmazione, è praticamente dichiaratamente ancora fascista. Quindi è molto simile come documento di programmazione, il movimento giovanile del partito di Fratelli d'Italia è molto simile come contenuti a può essere un Forza Nuova, una cosa fa, la sezione giovanile, l'organizzazione giovanile del partito.
Come fa l'episodio in realtà gli ha paura di reazione. Se che lui come viene, ma aussi se viene con noi all'italiano, che les jeunes du parti Fratelli d'Italia della Meloni, ils sont vraiment rivendicatifs du fascisme à l'ancien de Mussolini. Ça c'est déclaré, c'est fait. Avec l'excuse que sont jeunes.
Se è simile alla programmazione a Casa Pound o Forza Nuova.
Se vraiment simile o partì
dell'organizzazione giovanile
che sono divenuti illegali all'Italia di qui lontano. O il fondamento programmazione. Fagliela in italiano.
Quoi? Non, je l'ai pas dit. Non, ce que je veux dire, c'est que dans tout ce que tu dis, dans tout ce processus de fascisation en Italie, il y a eu une importance énorme de Berlusconi, quand même, homme des médias pourri, en tête d'État. Et je pense que nous, on vit aussi, c'est-à-dire ce que tu as décrit, toute cette propagande qui finit par être diffusée dans les milieux populaires, ce qui devrait se révolter, et qui finalement sont pris par cette propagande d'extrême droite. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, les médias français, on doit s'interroger aussi ce qui se passe, parce que avec Bolloré et avec toute cette merde médiatique, je pense que les réseaux sociaux aussi, mais on a le même processus qui accompagne une fascisation étatique.
Oui, oui.
Et je pense que c'est une volonté capitaliste, enfin, qui est claire, quoi. Genre Elon Musk, par exemple, là, avec Trump.
C'est la manipulation des masses.
Il y a des exemples. Si je veux dire, le RN, le projet, c'est d'en finir avec la téléphonie. Mmh. Si on n'a que Bolloré comme information, je ne dis pas, quoi.
Cette voix dégueulée sur les ondes, cette voix venue tout droit du territoire des ombres, cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons, cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarge, du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre est d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine, ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de Gorès enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente, elle s'inspire de toute culture, s'inspire de tout état. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond, c'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité ne sera jamais nationale.
Wir kommen in Schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa.
Ey, 2035, fleunig Venedig, Brüder ticken im goldenen Käfig. Wir fangen an zu träumen, es regnet hier, wo der Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen ist. Aus auf der Flucht, ihr geht in Einzelhaft. In eure Welt haben wir niemals reingepasst. Wo ich meine Heimat hab, in meinen zwei Zimmern hinterm Mans Albers Platz und im Herzen von Text. Sie machen Kunst, als wär's nicht mehr als Geschäft. Wär ich Spotify, wären die weg. Und wärst du nicht so ein Bastard, dann wäre ich nett. Check, kein Flex und kein Drip, keine heftigen Hits, aber Zeilen wie Steine.
Verwechsel uns nicht.
Mach frei am 1. Mai, Herr Polizei.
Glaub mir, ist besser für dich.
A-C-A oder wie? A-C-A-B. S-E-D-C. Nee, S-E-D-C. S-E-B-C.
A-C-A-B.
Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. 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 Wir holen uns den Thron. Wir stürmen Babylon so oder so. Von Konstantinopel bis Rom.
Ihr Modi.
Meine Leute haben noch nicht mal Kohle für Strom. Wir schreiben Geschichte und ihr nur Geschichten. Mach Sitz und Platz und bell du Hund.
Ist mir egal, was eure bürgerliche Mitte hält von uns.
Fahnen sind rot, Poloshirt schwarz, Legacy groß. Wer ging je so radikal in die Charts? Aus Hamburg, hey Disaster. Hab nen Hund, doch immer Kater. Und nen Impact auf dein Mindset wie dein Onkel oder Vater.
Mach ein Kreis, mach ein Kreis. Mach ein Kreis, mach ein.
Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. 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 Siamo tutti Antifa.
Dans la méfiance, ça sert à rien de justifier l'idée d'action. L'idée qu'il faudrait séparer des ensembles de populations. Parce que les frontières naturelles se contournent ou se traversent. Que dans le soutien mutuel, les communautés progressent. Parce que la réalité d'une essence est sa localité. Et son échelle planétaire, tout autre ne fait que nous diviser. Parce qu'on a des ancêtres communs obligatoirement. Et que les cultures s'entremêlent depuis la nuit des temps. Parce que sans les élites, les patries n'ont pas de fondement. C'est le retour de l'anti-France et des vrais arguments.
Comme des vautours qui se nourrissent de nos souffrances. C'est parce que leurs idées sont déjà au pouvoir. Que résister est un devoir. Politiquement soutient l'impatience démocratie. Gangrénée de gros racistes qui se penchent sur des beaux principes. Il y a une urgence vitale à dégager ces bandes de nazis. Faut appeler un chat et Darmanin un fasciste. Ils sont que fous éditorialistes. Ils sont patrons, ils sont ministres. Il y a aucun débat à avoir, y'a que deux camps et un seul ennemi à abattre.
La résistance nous appelle. Solidaire.
Siamo tutti antifascisti, boh.
fasciste.
Siamo tutti antifascisti.
Nous sommes tous des antifascistes.
Siamo tutti antifascisti.
Nous sommes tous des antifascistes.
Siamo tutti antifascisti.
Nous sommes tous des antifascistes.
Siamo tutti antifascisti.
Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet www.radiokipik.org.